Bondy Blog Café.
www.bondyblogcentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Bondy Blog Centre, un Bondy Blog Centre confiné qui va se faire par téléphone avec Hassan Kerim. Bonjour Hassan.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous.
Journaliste et Marie-Noëlle Vitry, militante bénévole au sein de deux associations locales, le collectif de soutien aux jeunes isolés étrangers du Loiret, le COJI 45 et RESF 45, Réseau Éducation Sans Frontières du Loiret. Alors Madame Vitry, nous allons parler d'une affaire concernant un jeune majeur isolé, Tcherno de son prénom, et qui a rencontré pas mal de difficultés concernant d'une part sa régularisation, d'autre part son hébergement, et encore pire récemment, donc une expulsion à la rue qui lui a été notifiée par la préfecture, c'était le 27 mars 2020, en plein confinement, voilà, où on lui a demandé de quitter son logement, chose tout à fait impossible pour des raisons sanitaires concernant toutes les personnes habitant sur le territoire métropolitain, en raison de la crise sanitaire international qui nous touche, je parle bien évidemment du Covid. On va remonter en janvier. Alors le coronavirus n'était qu'à nos frontières à cette époque, mais en janvier, donc, vous accompagnez ce jeune majeur, Tcherno, à la préfecture. C'était le 17 janvier, c'est bien ça?
Oui, exactement. Il faut savoir quand même que Tcherno est en France depuis 8 ans, hein, qu'il est arrivé mineur et qu'il a subi plusieurs refus de demande de titre de séjour sur divers motifs qui étaient chacun valables et légitimes. Et là, c'était une nouvelle demande sur de nouveaux fondements, c'est-à-dire l'intensité de ses liens personnels en France, l'intensité de sa vie personnelle en France, la longueur du séjour et voilà toutes ses capacités à être un citoyen comme tout le monde dans notre pays. Donc cette demande, on l'avait préparée ensemble, ainsi qu'avec son parrain. Il a un parrain citoyen qui s'appelle Nicolas Déré depuis 2016. Nous l'avons, donc je l'ai accompagné, il avait pris rendez-vous sur Internet, je l'ai accompagné à la préfecture. À la date du 17 janvier, il était logé dans un dispositif d'hébergement d'urgence depuis d'ailleurs plusieurs années, mais bon, c'est pas lui qui, c'était pas de sa faute s'il n'avait pas de papier pour trouver un autre logement. Il savait au moment où il a déposé sa demande, où il voulait déposer sa demande, il savait qu'il devait quitter ce logement le 15 février. Il était ce dispositif d'hébergement d'urgence qui est géré par l'AIDAFI et dans lequel il était à ce moment-là. Il avait pour ça une attestation de domicile et d'hébergement qui était faite par l'association et qui était entièrement légale et légitime puisqu'elle était datée jusqu'au 15 février. Et malheureusement, ce jour-là, à la préfecture, le dossier n'a pas été pris car cette attestation lui a été refusée.
Madame Vitry, vous nous dites là que la préfecture refuse un document tout à fait officiel fait par l'AIDAFI.
Ah bon? Oui. Absolument. C'est-à-dire qu'à la date du 17 janvier, il présente une attestation d'hébergement faite par l'AIDAFI, qui est limitée dans le temps, certes, mais qui à la date du 17 janvier est valable. C'est-à-dire qu'au 17 janvier, Tcherno, il était bien à l'adresse indiquée sur l'attestation et logé à titre tout à fait officiel. Hein. On lui a refusé cette attestation, lui disant qu'il fallait qu'il en donne une autre. Mais il pouvait pas en donner d'autres puisque il était logé par l'AIDAFI. Donc voilà, il pouvait pas à ce moment-là inventer une autre attestation. C'était pas possible.
Alors on lui demandait presque de rentrer dans l'illégalité. Enfin, c'est un peu incompréhensible. Alors excusez-moi, je vais donner quelques éléments pour nos auditeurs auditrices. Donc l'AIDAFI, c'est l'association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées. C'est bien ça?
Oui.
Oui, voilà. Et donc, à l'époque, Tcherno résidait dans un FJT, un foyer de jeunes travailleurs. C'est bien ça également?
C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est sur des places d'hébergement d'urgence.
Oui, allez-y.
Ce sont des places d'hébergement d'urgence qui sont disséminées, qui sont gérées parce que dans l'AIDFI, il y a un service spécial qui gère l'hébergement d'urgence. Et donc, c'est des places disséminées. Cherno bénéficiait de cette place-là qu'il avait pu avoir et conserver un certain temps parce qu'il était dans une situation sanitaire, enfin personnelle, un peu difficile avec des problèmes qui étaient reconnus. Et donc, il était logé là et ça s'arrêtait le 15 février.
Il faut dire, Madame Vitry, que vous accompagniez Tierno ce jour-là, le 17 janvier, à la préfecture. Vous étiez là.
Oui, j'étais présente. Oui, j'étais présente. Et donc, j'ai effectivement demandé, mais qu'est-ce qu'il doit donner comme attestation, puisque il est certifié qu'il est hébergé par l'AIDFI. Et on m'a répondu, l'endroit où il dort. Je dis oui, mais c'est ce qui est écrit sur l'attestation, qu'il est hébergé. Et on est reparti sans avoir pu déposer le dossier qu'on a, sur les conseils de l'avocat, ensuite envoyé par courrier en recommandé avec accusé de réception. Tout ça fait que le dossier n'était pas validé. La demande, elle était pas faite, puisque le dossier était parti par la poste. Donc Cherno a repris un rendez-vous à la préfecture. Les délais sont toujours un petit peu longs, donc il a obtenu un rendez-vous pour le 19 février. Et le 18 février, nous avons fait une mobilisation, une manifestation à l'extérieur de la préfecture pour Cherno, mais aussi malheureusement pour un autre jeune junior qui était en centre de rétention et qui entre-temps a été renvoyé. Renvoyé vers la République démocratique du Congo. Enfin, en tout cas, on était là aussi pour Cherno ce soir-là et on a été reçus en préfecture le 18 février au soir, donc la veille du jour où il avait son deuxième rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, enfin pour la faire valider. Et nous avons été reçus par Madame Landriève, qui est la directrice du service immigration et intégration, et par une autre directrice, qui est la directrice de l'équivalent de la cohésion sociale. Je vous passe l'abrégé du service qui est extrêmement compliqué, mais c'est l'ancien. Le service qui dépend de la préfecture, qui dépend de l'État, qui est un service de l'État, qui paye en fait l'hébergement d'urgence. Voilà. Donc, dans cette discussion, il y avait Nicolas Déré, le parrain de Cherno, il y avait un autre ancien parrain, Jean-François Roche, il y avait une autre personne qui est aussi une personne qui a attesté de ses liens avec Nicolas, avec Cherno, pardon, et puis moi-même. Et nous avons expliqué la situation de Cherno, nous avons demandé, appuyé sa demande de titre de séjour, sa demande de régularisation. Et Nicolas Déré, son parrain, a dit qu'il déposerait le lendemain à la préfecture pour la demande de titre de séjour une attestation d'hébergement chez lui, de Cherno, et a expliqué que nous avions mis en place un hébergement tournant dans plusieurs familles qui se portaient solidaires de l'hébergement de Cherno jusqu'à ce qu'il obtienne un titre de séjour pour pouvoir se loger lui-même. Voilà.
Oui, puisque l'attestation donc d'hébergement produite par l'AIDFI ne convenait pas à la préfecture, c'est bien ça.
En plus, à cette date-là, forcément, elle n'était plus valable, puisque Cherno devait avoir quitté sa chambre le 15 février, ce qu'il avait fait d'ailleurs le samedi qui avait précédé cette entrevue. Quand nous sommes allés à la préfecture le 18 février, Cherno n'était plus dans sa chambre au foyer des jeunes travailleurs, puisqu'il avait répondu à l'injonction, puisque la préfecture insiste beaucoup sur ce terme, à l'injonction qui lui avait été faite de sortir, et il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de problème. Cherno a rangé ses affaires, il a entreposé ses affaires chez des copains, et il est sorti de sa chambre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il fallait qu'il soit hébergé par les uns et par les autres pour pouvoir d'abord donner une adresse fiable, qui était celle de Nicolas Déré, et ensuite être effectivement en dehors de l'endroit où il était logé, puisqu'il n'avait plus le droit d'y rester.
Alors, continuez, madame, continuez, allez-y. Je vous ai coupé, mais j'avais une question.
Mais
je disais, mais alors, du coup, là, sur le communiqué que nous avons reçu du COJI et de RESF, on parle de faux pour la déclaration de Nicolas Déré. Mais d'où vient le faux? Comment il explique ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est une situation complètement ubuesque. car le 18, enfin le 19, enfin le 18 au soir, déjà, Cherneau nous a dit, il n'y a pas eu d'état des lieux hier dans ma chambre, j'avais rendez-vous pour l'état des lieux, il n'y a pas eu d'état des lieux. Mon référent m'a dit que non, que je pouvais garder les clés, qu'il n'y avait pas d'état des lieux. Bon. Il nous a dit ça le 18 au soir. Le 19, on est allé à la préfecture, Nicolas Cherneau et moi-même, pour le dossier. Donc l'attestation faite par Nicolas a été acceptée pour le dossier. Et on est retourné le matin même au foyer. On a téléphoné à la IDAFI et tout le monde nous a confirmé qu'effectivement, Cherneau n'aurait pas dû quitter sa chambre, en gros. Sans nous dire exactement ce qui se passait, on nous a dit, ben non, pour nous, il a déménagé, on n'était pas au courant, bref, voilà. Donc, on s'est demandé ce qui se passait. Pendant toute la semaine, Cherneau a bien dormi, vécu ailleurs. Et puis, au bout d'une semaine, il a à nouveau demandé ce qu'il en était de sa chambre, et on lui a dit, on lui a laissé comprendre qu'il pouvait y retourner, tout simplement.
D'accord. Okay.
Donc il est retourné dans sa chambre au foyer des jeunes travailleurs, et il n'y a eu aucune intervention, rien ne s'est passé. Et effectivement, Nicolas Déré n'a pas pensé à dire « Ah ben, au fait, alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai attesté que je l'hébergeais, mais en fait, voilà. » Et
Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est que, et toujours en revenant à ce communiqué envoyé à la presse, c'est que vous revendiquez d'être des délinquants solidaires. Et vous parliez également là tout à l'heure de l'hébergement solidaire, hébergement tournant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ce qu'on est en train de mettre en place là, c'est alors la question de délinquants solidaires, c'est que Nicolas Déré a reçu un courrier disant qu'il avait fait un faux et que le procureur avait été saisi pour des poursuites. Cherneau a reçu aussi un courrier qui l'implique dans ce délit, entre guillemets. On dit qu'il a utilisé un faux. Et donc, nous, on dit, on prétend que Nicolas Déré est un délinquant, nous aussi, on est tous des délinquants, puisque tous, à un moment ou à un autre, à cause des situations, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, la solidarité, elle est créée, elle est imposée quasiment par la préfecture qui, à force de maintenir les gens dans une précarité impossible, pousse des citoyens à intervenir pour venir en aide à ces personnes. Donc, les hébergements qu'on fait et les attestations d'hébergement qu'on fait pour des jeunes, c'est parce que d'abord, on les a effectivement chez nous quand ils n'ont rien, pour pas les laisser dehors. Et donc, si Nicolas est un délinquant parce qu'il a donné une attestation d'hébergement d'urgence et fait en sorte que Cherneau ne dorme pas à la rue, qu'il soit bien logé, qu'il ait une adresse stable, alors à ce moment-là, on est tous des délinquants solidaires. Et cette idée d'action qu'on propose pour les jours qui vont venir, parce qu'après le 11 mai, il faudra bien que Cherneau ait un toit, c'est de trouver un grand nombre d'hébergeants qui participent, un grand nombre de personnes qui participent financièrement et de chacun de manière modeste à un hébergement pour Cherneau. Et donc, on se déclare hébergeant solidaire pour montrer à l'administration, pour montrer à la préfecture qu'on supporte, qu'on est solidaire de la situation de Cherneau. Et ça, c'est la préfecture qui l'impose, en fait.
Psychologiquement, comment est-ce qu'il le prend? Lui, j'ai l'impression qu'il a une tentative d'épuiser psychologiquement et moralement les personnes, non seulement sans papier, ces jeunes étrangers sans papier, mais également leur soutien, non?
Alors, les soutiens, ils sont solides. Ça fait des années qu'on est là. On n'arrêtera pas de soutenir les gens, heureusement, et tout le monde le sait. En France, d'une manière ou d'une autre, quels que soient les domaines, on le voit bien. On le voit bien en cette période de crise sanitaire, la solidarité, elle existe et les gens sont prêts à la manifester et concrètement. Hein. Mais en ce qui concerne Cherno, ben moi je pense qu'il vaut mieux que vous lui demandiez lui directement à lui hein, comment il se sent. Moi je pense que c'est vraiment difficile pour lui parce que il le prend peut-être pour lui. Hein. Il n'a pas autant de recul que nous. On a beau lui dire non, c'est pas toi, ne t'inquiète pas. Il a du mal à comprendre que c'est un fonctionnement global d'une politique à l'égard des étrangers, enfin à l'égard, je dirais même, contre les étrangers, parce que c'est pas lui, hein, c'est pas Cherno, mais malheureusement c'est une seule personne. Et moi, ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a mise vraiment en colère et que je trouve absolument insupportable aujourd'hui, c'est que dans un temps où tout le monde est fragile, tout le monde, hein, tous les personnes qui travaillent partout, qu'une personne de la préfecture s'intéresse à ça, enfin s'occupe de ça, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire pour sortir les gens de la précarité. Je veux dire, l'accueil à la préfecture est fermé, donc c'est du travail quand même en moins. Alors certes, il y a du personnel en moins, mais qu'une fonctionnaire, le 27 mars, se mette, enfin, et cette intervention sur ce dossier, je trouve ça totalement insupportable. Parce que il y a mieux à faire que ça, quand même. Il y a mieux à faire que ça, et notamment, commencer par régulariser Cherno, parce que c'est pas en l'accusant de ci, en l'accusant de ça, qu'on va lui permettre de devenir autonome et d'accéder à un logement. On lui reproche d'utiliser un faux, mais il y a qu'à lui donner des papiers. Ça fait 8 ans qu'il est là. Pourquoi, depuis 8 ans, il n'a pas eu de papier qui lui aurait permis d'avoir un boulot et de trouver du travail et d'avoir un boulot et de trouver un logement. C'est quand même hallucinant de la façon que l'administration a de voir les choses et surtout de maintenir les gens comme ça dans un carcan précaire absolument insupportable.
Mais justement, il en est où lui, Cherno, il est étudiant.
Cherno, il a tant bien que mal fait ce qu'il pouvait faire. D'abord, il parle français, Cherno, hein. Il vient de Sierra Leone. En Sierra Leone, Leone, c'est pas un pays francophone, hein. Cherno, il doit parler 4 langues. Il parle créole, il parle anglais, il parle français. Je sais pas quelle est la Peul, je crois. Il parle Peul aussi parce que son père était Peul. Voilà, il a appris le français en France. Alors certes, il n'a pas réussi à obtenir un diplôme parce qu'il est arrivé quand même à un âge déjà. Il n'était pas jeune. Il n'a pas pu reprendre des étapes scolaires qui lui auraient permis de mieux intégrer tous les apprentissages. Et donc, il a eu du mal il n'a pas pu avoir de diplôme. Donc, il s'est retrouvé, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu titre de séjour, parce que, à un moment donné, il était sur le carreau, quoi.
Bien sûr.
Mais ça n'empêche pas qu'il sait faire des choses, qu'il est capable de faire des choses, qu'il a tous ses amis ici, hein. Il est arrivé à 17 ans, aujourd'hui, il en a 25. En 8 ans, il a construit sa vie personnelle. Où pourrait-il la mener ailleurs qu'en France, puisque c'est ici qu'il a ses amis, c'est ici qu'il a tous ses repères.
Bien entendu. Mais alors, on lit un peu partout hein, dans la presse nationale des situations indignes hein, pour ces jeunes isolés étrangers dans cette période de confinement. À part Cherno, vous avez des informations sur d'autres? Où on en est?
Il y en a d'autres.
Ils sont tous logés.
Alors ils sont logés, mais pas tous dans des conditions formidables. Il y a des hôtels qui sont extrêmement mal équipés. Comment on appelle ça, la promiscuité, elle n'est pas évitable tout le temps. Les questions de nourriture sont problématiques et les questions de continuité scolaire aussi, hein, la continuité pédagogique, comme on dit. Je veux dire, les jeunes, ils ont peut-être Ils ont peut-être un peu de forfait pour avoir Internet sur leur téléphone, mais c'est pas ça qui leur permet de suivre les cours. Hein. Donc c'est des situations, enfin comme tous les gens aujourd'hui en difficulté en France, pas seulement les étrangers. C'est des situations qui vont devoir être prises au sérieux après, et plus que n'importe qui, hein, et les étrangers aussi. Nos associations demandent toutes la régularisation des sans-papiers. C'est maintenant qu'il faut le faire, quoi, parce que ça suffit. C'est pour ça que la situation de Cherno, elle est quand même emblématique de l'état d'esprit de l'administration et du gouvernement. Je veux dire, comment peut-on permettre à une administration de faire un courrier comme celui qui a été envoyé le 27 mars? C'est totalement, c'est fou, quoi. Pourquoi renvoyer aujourd'hui quelqu'un? Pourquoi expulser aujourd'hui un jeune qui a vécu en France pendant 8 ans, qui est capable de faire des choses en France, alors qu'aux frontières s'entassent des personnes dont il faudra bien faire quelque chose, parce qu'on peut pas quand même, nos nations civilisées et modernes ne peuvent pas quand même accepter qu'on laisse mourir les gens comme ça sur l'île de Lesbos. Enfin, on n'en parle pas. On parle des masques, etc. ici, mais il y a quand même des milliers de gens qu'on a laissés. C'est des situations qu'on a laissé se créer. Hein, franchement, c'est la responsabilité de l'Europe. Donc, faut être quand même clair sur cette question-là. La pandémie, on n'est pas au bout parce que il y a toutes les personnes précaires qui sont difficiles à prendre en charge actuellement. Donc qu'on laisse de côté, quoi, pour lesquels on n'a pas fait les efforts suffisants.
Et il faut le dire. Vous parliez de Junior qui a été expulsé au mois de mars dernier vers la RDC, vers Kinshasa, ouais. où il n'avait plus d'attache. Vous avez des nouvelles de lui?
Bah, les nouvelles sont assez moches, hein, parce que Junior avait réussi par contact avec des amis de France de rencontrer quelqu'un qui était prêt à lui mettre le pied à l'étrier en Angola, parce que en fait ce qu'on nous a expliqué, c'est que à Kinshasa, ben, il se passe plus grand chose, hein, au niveau la vie économique de Kinshasa, c'est grâce aux échanges des commerces à partir de l'Angola, hein. Et donc on l'a aidé au début pour son accueil. On a réussi à trouver une petite solution un peu légère, mais en tout cas il a été accueilli à l'aéroport, il a été mis à l'abri pendant quelques nuits, et ensuite il est resté avec cette personne qu'il a rencontrée sur place, et il a commencé à préparer son projet pour partir à Luanda, et malheureusement les frontières se sont fermées, donc la situation, elle est totalement bloquée. Junior, il est hébergé dans une chambre de 8 mètres carrés avec quelqu'un d'autre. Donc, ils sont à deux dans une chambre de 8 mètres carrés. Ils supportent très, très mal la chaleur parce qu'en 8 ans, il a perdu l'habitude de vivre dans un climat comme celui de la RDC. Et il ne peut absolument rien faire, quoi. Il est totalement bloqué. Il ne se passe rien, quoi. Il est vivant, c'est tout ce qu'on sait, hein. Enfin, il est vivant, on peut le joindre parce qu'on lui a envoyé un petit peu d'argent, et donc on espère que la situation va pas rester bloquée comme ça trop longtemps et qu'il va pouvoir partir et démarrer une vie potentiellement viable, économiquement en tout cas. Mais la personne qui avec laquelle il est en ce moment, elle est soumise aussi à cette situation, hein, difficile, hein. Donc faut voir que ce qui est rendu difficile économiquement pour nous, c'est au centuple dans des pays comme cela, quoi.
Madame Vitry, tout est bloqué en ce moment, en part de ces temps de confinement. Il y avait des choses qui étaient prévues, hein, à Orléans, il faut le rappeler, à Olivier plus exactement, le ministère de l'Intérieur préparait l'ouverture d'un centre de rétention administrative. Mmh. Et des actions étaient prévues. Mmh. Alors, où on en est pour vous, en tout cas, RESF et COJI, est-ce qu'on repart dans l'action à la fin du confinement?
Bon bah sûrement oui, parce que effectivement il y avait une grande manifestation qui était prévue le 4 avril.
C'est ça.
Et on va remettre le couvert dès que ce sera possible. Hein. Bon, c'est vrai qu'on voulait faire quelque chose d'envergure, et donc ça demande beaucoup de monde présent. Alors on verra comment les mesures de surveillance et d'évitement de propagation du virus vont nous le permettre, mais on va en remettre, parce que voilà un scandale typique de notre époque, hein, c'est que la construction d'un centre de rétention, premièrement, ça demande des millions d'euros, et après la gestion demande elle aussi des millions d'euros. Alors que on nous a toujours objecté que pour l'hébergement d'urgence, il n'y a pas assez de budget, pour ceci, il n'y a pas assez de budget, pour les hôpitaux, il n'y a pas assez d'argent, pour les masques, enfin donc c'est un autre élément de fâcherie, mais c'est sûr qu'on n'en veut pas. Alors c'est à Olivet, mais c'est pas parce que c'est à Olivet qu'on n'en veut pas, hein. C'est les gens qui sont mobilisés, mais il y en a deux autres prévus ailleurs, et on n'en veut pas. C'est tout, quoi. Il y en a suffisamment. Déjà, ce qui existe ne devrait pas exister. Il n'est pas question pour nous qu'il y en ait d'autres. C'est pas possible d'enfermer les gens. C'est pas possible de construire une politique migratoire sur la répression. Parce que actuellement, c'est ce qui se passe, quoi.
Ouais. Ben, on vous remercie vraiment d'avoir passé un peu de temps avec nous. Madame Vitry.
Merci à vous. Hein.
Merci Madame Vitry.
J'espère que j'ai pas trop bafouillé.
Non, non, non.
Je vous laisse.
Merci.
Je vous laisse appeler les principaux intéressés. Alors.
Merci beaucoup.
Bientôt.
Ça marche. Au revoir. Donc, on est à présent avec Nicolas Déret. Il est professeur en lycée à Orléans et parrain citoyen depuis 3 ans de Cherno Ibrahimba, jeune majeur isolé étranger en attente de régularisation. Nous avons échangé avec Madame Vitry tout à l'heure et elle nous a expliqué que, après avoir essuyé un refus de la part de la préfecture à la mi-février concernant un document qui ne convenait pas, donc une attestation d'hébergement de l'AIDAFI, donc comment il s'appelle, Cherno Ibrahimba dans un FJT. Oui. Vous avez choisi donc de faire des hébergements tournants, c'est-à-dire que à tour de rôle, plusieurs militants bénévoles et du COJI et de RESF se proposaient d'héberger Cherno. Il vous a été, on vous a accusé d'avoir produit un faux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin, démêler tout cela?
Alors oui, tout à fait. C'est une situation un petit peu alambiquée lorsqu'on la voit de l'extérieur. Je vais donc simplement rappeler quelques dates. Cherno était dans l'obligation, il a reçu un papier à la fin du mois de décembre 2019, dans l'obligation de quitter l'hébergement d'urgence dont il bénéficie, c'est-à-dire la chambre qu'il occupe au foyer des jeunes travailleurs d'Orléans. Obligation donc qui lui est faite de quitter cette chambre, pardon, au 15 février, donc un samedi 15 février. Et bien évidemment, on s'est organisé, Cherno, l'association et moi-même, pour qu'un déménagement puisse se faire. Il a laissé ses affaires chez un ami et la chambre était vide le 15 février. Le lendemain, le dimanche 16, nous nous sommes réunis chez une amie. Je vais donner son nom parce qu'elle m'a autorisé à le donner, Madame Marie-France Cano.
Oui.
Avec laquelle donc il y avait Marie-Noël, il y avait Marie-France Cano, puis une autre personne, Régis Falbémy et Cherno lui-même, pour organiser un hébergement solidaire tournant, puisque de fait, de facto, Cherno se retrouvait à la rue.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bricolé quelque chose un petit peu rapidement pour prévoir les 3 premières semaines. Pourquoi? Voilà, les 3 premières semaines suite à cette expulsion de son logement. La première semaine, il devait la passer chez une amie, membre du collectif, Madame Josiane, enfin c'est Josiane, et il a passé la première semaine chez Josiane, donc le soir même, le dimanche 16, du 16 au 24 février, je crois, je ne me rappelle plus exactement les dates. Il n'est pas dans sa chambre du foyer des jeunes travailleurs et il est chez Josiane. Ensuite, il devait aller chez Marie-France et ensuite, il devait aller chez Régis. Alors, il n'était pas chez moi parce que moi, j'ai un petit appartement. J'ai assez peu de place pour l'héberger, malheureusement. Mais comme il fallait une attestation d'hébergement pour déposer le mercredi de cette semaine-là, le mercredi 19 février, je suis désolé pour la précision, il lui fallait donc une attestation d'hébergement pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. J'ai rédigé une attestation comme quoi il était chez moi. Je l'ai rédigé en tant que coordonnateur, uniquement en tant que coordonnateur de l'hébergement d'urgence solidaire que nous avions mis en place un petit peu rapidement. Sachant que je suis le parrain citoyen de Cherno depuis 3 ans, et que la veille, le mardi soir, nous avons été reçus en audience par 2 personnes de la préfecture, dont Madame Landrieff, c'est son nom, qui est responsable du service étranger. Et je lui ai indiqué, nous a posé la question, où dort-il maintenant, et je lui ai indiqué clairement que nous avions mis en place ce petit système d'hébergement d'urgence et que j'avais rédigé le jour même une attestation comme quoi il était chez moi. À quoi il n'y a pas eu de réaction, sinon une sorte de « ah, c'est bien », etc. Et donc, pour moi, les choses allaient ainsi, jusqu'à ce qu'il y ait un élément perturbateur qui est venu, comment dire, s'immiscer sans qu'on comprenne réellement, c'est que alors que l'état des lieux devait se faire le lundi soir, le 17 février, Shadow donc devait redonner ses clés de sa chambre, la chambre était vide, il a reçu un coup de fil une heure auparavant, c'était prévu à 17h, il reçoit un coup de fil vers les 16h de l'Aïdafi, lui disant que l'état des lieux était suspendu et qu'il pouvait étrangement garder la clé. Donc la première semaine, on est resté un petit peu bouche bée. On a essayé d'avoir plus d'informations, on n'en a pas eu. Je pense que Madame Vitry a dû vous donner quelques informations là-dessus.
Absolument.
Cherno avait cette clé de cette chambre vide, vacante. Voilà, il dormait chez Josiane, comme on l'avait dit, comme on s'était engagé, pour respecter l'injonction qui lui était faite. Au bout d'une semaine, toujours pas d'informations, ni de nouvelles, et... au moment où il devait passer de chez Josiane à chez Marie-France, dans ce système d'hébergement solidaire, on s'est dit, écoute, t'as la clé, retourne-y. Quoi.
Bien sûr. C'est
dommage d'avoir cette chambre vacante. Retourne-y. Alors, il n'a pas du tout fait de nouveau déménagement. Il a pris les quelques affaires qu'il avait dans son sac à dos pour de nouveau y loger, en se disant, j'ai quelques affaires, si je dois repartir, je repartirai, mais on reprendra le système d'hébergement d'urgence. Et on en est là, et ensuite il a été convoqué par les AFI qui lui a signalé qu'il devait réellement et définitivement quitter sa chambre le 27 mars. Sauf qu'entre-temps, le confinement a été décidé par le gouvernement le 17 mars, et que les AFI lui a demandé de rester confiné.
Bien sûr.
Et donc il y est encore aujourd'hui. Donc voilà, on en est là, et Cherno et moi avons donc reçu un courrier de la préfecture sans recommander ni accuser de réception, un courrier, je veux dire, normal, en date du 27 mars, il y a un tampon du 27 mars, indiquant à Cherno qu'il avait pris l'info lors de sa demande de titre de séjour concernant l'attestation d'hébergement, lui disant qu'en conséquence, on ne pouvait pas étudier sa demande de titre de séjour, et lui demandant le 27 mars, j'insiste, soit 10 jours après l'entrée en vigueur du confinement, lui demandant de bien vouloir quitter le dispositif d'hébergement d'urgence.
Mais cette histoire est dingue. La préfecture ne pouvait pas appeler l'AIDAFI. Vous avez...
qu'est-ce qui s'est passé ? De ce que je sais, moi je n'en sais pas beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire. Oui. L'AIDAFI n'était pas au courant, mais il faudrait peut-être voir avec l'AIDAFI. De ce que je sais, l'AIDAFI ne semble pas être au courant des courriers que Cherno et moi, dont Cherno et moi avons été les destinataires. Et moi, donc, le même jour, je reçois le même courrier, enfin, un courrier à peu près équivalent, m'indiquant que j'ai produit un faux, m'accusant donc d'avoir produit un faux, et me disant que la préfecture a saisi le procureur de la République à des fins de poursuite pénale.
Donc, pour production d'infos, de quel faux précisément ? Enfin, de quoi s'agit-il ? Excusez-moi, je ne comprends pas vraiment. De quel faux ? C'est quoi ce faux, en fait ?
Le faux, c'est que le mercredi 19, lorsque Cherno a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, il lui fallait absolument, c'est une condition nécessaire, avoir une domiciliation.
Oui, c'est ça.
Voilà. Cette domiciliation, ça ne pouvait plus être au foyer des travailleurs puisqu'il n'y était plus.
Il avait quitté.
Comme la préfecture lui avait demandé de le faire. Donc il a respecté cette injonction. Ça, on ne pouvait pas non plus donner une attestation qui changerait toutes les semaines. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, la troisième semaine chez une troisième personne. Ça, c'était impossible, ça n'a pas de sens, puisque le but de l'attestation, c'est de savoir où il est et de pouvoir le repérer le plus aisément possible. Donc, nous avons décidé collectivement que l'attestation se ferait à mon domicile, puisque je suis le parrain citoyen de Cherno, puisque je suis le coordonnateur, j'étais le coordonnateur de cet hébergement d'urgence, que ça serait donc une attestation comme quoi il logerait chez moi, donc il y a mon adresse à Orléans, d'accord. Quand bien même, il ne serait pas physiquement chez moi, mais moi, j'étais en capacité de dire exactement, d'ailleurs, on s'appelle à peu près tous les jours, j'étais en capacité de dire exactement où est Cherno, où il dort, chez qui. Voilà. Et donc, la préfecture me dit, mais non, regardez, vous avez produit une fausse attestation, puisque le 27 mars, au moment donc où le courrier nous est envoyé par la préfecture, il n'est pas chez vous, puisqu'il est encore au foyer. Il est encore au foyer, puisqu'on lui a laissé les clés, et c'est ça, cet élément-là qui reste encore aujourd'hui pour nous énigmatique, j'ai toujours pas de réponse, j'espère en avoir une un jour. Pourquoi est-ce que on lui a laissé les clés, pour ce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'expulsion sur le logement au 15 février?
Voilà. Bien entendu. Alors, la préfecture, dit aussi que le parquet a été informé de l'infraction. Ça veut dire qu'il se réserve le droit de vous attaquer au tribunal, de vous mettre
exactement
au tribunal.
Exactement. Ah, oui. La fin du courrier, je vous le lis.
Oui, bien sûr, parce que nous ne l'avons pas, je ne l'ai pas sous les yeux.
Voilà, j'ai le courrier. L'attestation d'hébergement que vous avez rédigée constitue donc une fausse attestation. Aussi, je vous mets en garde contre les conséquences de tels agissements et vous signale que les faits précités étant passibles d'une condamnation pénale, j'ai saisi le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de poursuites pénales éventuelles à votre encontre comme à celle de M. Ibrahim Cherno-Ba.
Et jusque-là, vous n'avez pas vous n'avez rien du parquet, le tribunal ne vous a pas écrit, rien. Bon, d'accord.
Rien. Ça, c'est signé du préfet, enfin, de son secrétaire général. Non, pour l'instant, aucune nouvelle, ni du parquet, ni de la préfecture. J'ai rédigé une réponse que j'ai renvoyée en accusé de réception à la préfecture, justifiant, enfin, vous expliquant un peu plus dans le détail ce que je vous expliquais ici brièvement. Et pour l'instant, je n'ai pas de retour.
Cette histoire était complètement dingue. Alors, vous avez reçu le soutien de deux collectifs importants, le RESF et le COGI, qui appellent même, et c'est là, on en a parlé un peu avec Madame Vitry, appelant même à des gens solidaires de se déclarer délinquants solidaires. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, le prof de philo, délinquants solidaires, c'est quoi?
Moi, c'est l'idée de... Alors, solidaire, j'approuve, mais évidemment, à 1000%. C'est l'idée de délinquant. Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends évidemment la démarche et j'en suis tout à fait ravi et je la soutiens, bien évidemment. C'est que lorsque j'ai rédigé cette attestation pour venir en aide à Cherno, lorsque j'ai organisé, enfin, co-organisé avec d'autres, bien évidemment, l'hébergement d'urgence, ce qu'on est en train de refaire, d'ailleurs, parce que si on va jusqu'au bout de la logique, 11 mai, c'est-à-dire au moment du déconfinement, normalement, Cherno devrait quitter sa chambre. Donc, il va de nouveau se retrouver à la rue. Et on va de nouveau mettre en place ce système d'hébergement tournant, ce qu'on est en train de faire. J'étais encore hier au téléphone pour organiser ça.
D'accord.
Pour répondre à votre question de manière plus rapide, je n'ai pas du tout l'impression d'être un délinquant. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir commis quelque délit que ce soit.
Alors, excusez-moi, alors je vous le rappelle, il est interdit en France d'héberger une personne sans papier.
Voilà,
c'est un délit maintenant.
C'est un délit, voilà, effectivement. Donc, je suis un délinquant. Je suis un délinquant solidaire, si vous voulez. Mais c'est vrai que lorsque j'ai reçu ce courrier, vraiment, j'en suis tombé un peu dénu. Voilà, ça m'a laissé sans voix. Je ne m'attendais pas du tout à avoir été dans une attitude de provocation ou délictueuse à l'égard de la préfecture. Voilà,
Et ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi en termes, enfin, de cette société là, de cette société française sur un délit qui n'en est pas un, qui est inventé. On va où?
Je veux pas jouer au professeur de philosophie, mais c'est toute la différence entre ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. C'est-à-dire que la loi, elle définit le droit positif, il définit ce qui est permis, ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Point. Mais le droit, il évolue, il est fait par des hommes, par des sociétés, et il est toujours articulé à des objectifs politiques. Il y a des contextes. Voilà. La légitimité, c'est qu'il y a peut-être des valeurs qui transcendent ce strict rapport à la légalité. Et que on ne peut pas attendre d'une préfecture qu'elle soit toujours, malheureusement, à la hauteur des valeurs du pays dans lequel on vit. C'est-à-dire que moi, pour être un petit peu naïf, je crois que la devise liberté, égalité, fraternité, et notamment fraternité, a un sens. Que si la France, c'est le pays des droits de l'homme, etc., etc., comme on ne cesse de le dire à nos élèves, et on a raison de le dire, si la France veut être le pays des droits de l'homme, alors effectivement, elle devrait peut-être faire en sorte d'être à la hauteur de cet idéal et de ces valeurs qu'elle ne cesse de promouvoir. Et voilà. Et on est en face avec effectivement une préfecture, un service étranger qui discrimine et qui laisse pendant 8 ans. Charnot, ça fait 8 ans qu'il est arrivé sur le sol français. Il est arrivé comme mineur non accompagné. Hein, il avait 16 ans. Qui laisse pendant 8 ans quelqu'un dans la misère, dans la précarité, parce qu'il n'a pas le droit de travailler légalement, donc il n'a pas le droit d'obtenir une rémunération légale, donc pas de logement, bref, et donc on le condamne 8 ans encore après à vivre le jour et à dépendre d'un collectif d'autrui, quoi.
Voilà. Vous l'avez tous les jours au téléphone, comment il va?
J'ai eu tout à l'heure encore au téléphone, mais écoutez, il fait avec, mais voilà, il est particulièrement marqué quand même. Par son passé. En plus, c'est quelqu'un qui a vécu un passé traumatisant, mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails de son parcours. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est suivi pour un des traumatismes liés à son parcours et liés à son passé, qui est suivi par le centre médico-psychologique d'Orléans, et qui donc déjà quelqu'un qui est fragilisé et qu'on expose encore à une précarité, c'est-à-dire qui est malheureusement organisée par l'institution elle-même.
Oui.
Voilà.
Est-ce que le terme de... Pardon.
Oui, pardon.
Est-ce que le terme de résistant ne conviendrait pas mieux que délinquant, dans la mesure où, je ne sais pas, dans l'histoire de France, certaines personnes, des fois, ont fait acte de résistance et se sont, j'allais dire, opposées aux lois de l'État français. Je pense au juste, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'y a aucune comparaison à faire, bien évidemment.
Oui.
Mais c'est pour ça que je préférais employer le terme peut-être de résistant, en pensant... alors, peut-être pour faire un compromis entre la légalité et la légitimité. Et surtout ne pas vous donner l'étiquette de délinquant.
Non, mais effectivement, la notion de résistance... Je pense ici qu'elle a tout son sens. Alors, évidemment, je pense que l'analogie, il faut faire attention.
Bien sûr, oui.
Un petit peu rapide.
C'est pas comparable.
Exactement. La résistance au sens, c'est-à-dire de maintenir un esprit de résistance, c'est-à-dire de résister à cette machine à broyer que parfois les institutions étatiques, les institutions publiques peuvent incarner. Machine à broyer, mais pour Charnot et pour quiconque. Là, on est dans le cas d'un jeune qui n'a pas de papier, qui n'a pas de statut. Effectivement, c'est résister. C'est faire valoir la légitimité devant la légalité. C'est ça, résister. C'est pas forcément, effectivement, prendre les armes et ça. Mais la résistance au sens où c'est rappeler que l'État, c'est chacun de nous. L'État, c'est chacun de nous. Et que l'État, ça n'est rien d'autre qu'un organe, que des institutions, qu'une société, donc que des hommes et des femmes se donnent pour s'administrer de la meilleure façon qui soit. Voilà, c'est ça, la résistance. Et que lorsque la légalité l'emporte sur l'humanité, il faut, c'est-à-dire qu'il faut faire valoir l'humanité, oui.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression du tout d'être ni un délinquant ni un résistant. J'ai l'impression, d'essayer de vivre, autant que possible, le plus fidèlement possible, par rapport aux valeurs qui sont celles de notre humanité commune.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement quelles sont ces valeurs qui vous ont animé, quelles ont été vos motivations pour venir en aide à Charnot il y a de cela 3 ans maintenant?
Il y a 3 ans, je ne veux pas rentrer dans un parcours biographique trop précis, mais il se trouve que je suis enseignant et professeur de philosophie, et avec des collègues, nous organisons ce qu'on appelle les rendez-vous philosophiques. Il y a 3 ans, le thème, c'était sur la question de l'étranger. On avait pris comme thème un poème de Jacques Prévert, Étrange aux étrangers. Et donc, il y avait plusieurs manifestations. Et l'une d'entre elles que j'avais organisée, en collaboration avec la librairie Les Temps modernes d'Orléans, était une rencontre avec Rosane Lebert, excusez-moi, Rosane Lebert, qui avait publié un ouvrage portant sur les tests de minorité, de majorité que l'on fait passer aux migrants.
Ah, les tests osseux.
Voilà, c'est ça, tests osseux, etc. Et donc, il y a cette rencontre dans une petite salle de la librairie que je co-anime avec Sophie Todescato, la libraire, et dans le public, des personnes du collectif que moi je ne connaissais pas encore, des migrants. Et puis, voilà, il y a eu des prises de parole qui m'ont vraiment touché. Et puis, quelques jours plus tard, s'organisait par le collectif une cérémonie de baptême républicain. Mmh. Et là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me contente de brasser des concepts et d'organiser des événements. Je pense que c'est pas inutile, hein, sinon je ne serais pas professeur et professeur de philosophie. Je pense que c'est utile, les concepts et la parole. Et est-ce que j'essaye à un moment donné d'organiser ma vie en fonction de mes valeurs ? Et donc je me suis engagé dans ce parrainage. Voilà, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Cherneau et voilà.
Comment on sort de cette histoire-là que je rappelle qui est complètement folle de votre côté? Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et si alors le parquet s'en mêle, vous êtes comment on s'en sort?
Bon, comme je l'ai dit, moi je me suis engagé de manière très humble et anonyme et personnelle dans cette démarche de parrainage. C'est d'abord un rapport d'homme à homme, quoi dire humain. J'avais pas du tout l'intention ni d'être médiatisé comme c'est le cas aujourd'hui, ni d'avoir affaire à la justice. Maintenant, effectivement, s'il faut aller plus loin, c'est-à-dire aller dans une procédure de justice, et s'il faut mobiliser le plus possible pour essayer de convaincre la préfecture, un, que son accusation est fausse, et surtout de permettre à Cherneau d'obtenir enfin un titre de séjour et puis de vivre de la manière la plus apaisante possible, et ben on le fera bien évidemment, et on le fera. C'est pas maintenant que je vais m'arrêter, mais voilà, moi j'avais rien demandé, je vous ai dit, voilà, le but quand je me suis mis engagé auprès de Cherneau, c'était, je lui ai dit, on en a parlé encore tout à l'heure, c'était on va faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout, et aller jusqu'au bout, c'est t'as un titre de séjour, et comme il le dit lui, avec ses mots, c'est-à-dire il veut vivre normalement. Okay. Alors lui, normalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre de séjour, un petit boulot, un appart, des amis, voilà quoi.
La vue d'un jeune français de 25 ans, voilà.
Voilà, c'est ça. Il demande pas plus, finalement. Il demande pas plus. Et puis, j'allais dire, maintenant, sa vie, elle est là. Enfin, c'est ça, je ne comprends pas. C'est qu'il est arrivé, il a 16 ans, il en a 25, il a laissé tout son passé derrière lui. Enfin, il essaye de laisser son passé derrière lui. C'est pas toujours facile. Et puis, il veut vivre ici. Ses attaches sont là. Il veut construire un avenir, mais très humble, ici. Il ne cherche pas à la fortune. Il ne cherche pas à être un millionnaire. Hein. Enfin,
Il en parle facilement de son passé. Il faut rappeler, hein, Marie-Noël Vitry nous a dit qu'il vient de Sierra Leone, qui a une histoire complètement dingue. J'invite nos amis auditeurs à aller regarder l'histoire de la Sierra Leone, qui n'est toujours pas très stable. Mais il en parle facilement de son passé ?
Non, il en parle difficilement de son passé. Et lorsque l'on évoque la possibilité d'un retour, je lui dis, on en a parlé, je lui dis, pourquoi est-ce que tu peux aussi, et là c'est juste impossible. C'est-à-dire que, je voulais pas vous le dire, mais bon, on va le dire quand même. Il se trouve que j'ai assisté, bien malgré moi, à une rencontre qui a eu lieu entre le médecin qui le suit, un psychiatre qui le suit, et lui-même. Je suis resté dans le cabinet, et donc le médecin psychiatre qui m'interrogeait, et là je l'ai vu. Dans un état que j'avais jamais vu, c'est-à-dire en pleurs, en sanglots, tremblant de tout son corps, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui pour lui très très traumatisant. Et effectivement, il n'en parle pas facilement. Ouais. Voilà.
Et à cela vient s'ajouter les angoisses de cette situation administrative.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que ce cadre-là, où on l'empêche encore une fois de pouvoir se stabiliser, le fragilise encore plus. S'il bénéficie d'une chambre dans un foyer de jeunes travailleurs depuis 2014, c'est parce que c'est à la demande des services qui le suivent, des services locaux qui le suivent. Au départ, il était dans un hôtel et il y avait pas mal de crises d'angoisse. Et donc, c'est pour apaiser ou limiter ces crises d'angoisse qu'il a été placé dans cette chambre où il est effectivement dans un cadre beaucoup plus apaisé. Et vous voyez, donc là, au 15 février dernier, il devait quitter cette chambre, à la fin du confinement également. Et je pense que ça va, effectivement, encore une fois, majorer sa fragilité. Et donc, nous, voilà, on essaie tout simplement de l'accompagner. Et comme je vous dis, on s'arrêtera lorsque Cherno pourra vivre de lui-même. Voilà. C'est-à-dire accéder vraiment à l'autonomie.
Allô ?
Oui.
Allô ? Allô, Cherno ?
Oui, c'est moi.
Ah voilà, tu nous entends bien ?
Oui, je vous entends bien en fait.
Voilà, donc on est les journalistes là que Nicolas t'a dit qu'on allait t'appeler.
Oui, d'accord.
Voilà, donc moi je suis Hassan, je suis originaire du Togo, hein, je suis journaliste, et Daniel qui est chez lui mais qui enregistre aussi, on est journaliste, et on a eu Nicolas et puis Marie-Noël. Hein.
D'accord.
Comment allez-vous ?
Ah, ça... Par rapport aux administratifs, ça va pas.
Par rapport à la vie, j'ai envie de dire au jour le jour, là, pour dormir, pour manger.
Ça va pas, en fait. Ça, c'est la vérité, en fait. Ça va pas. Ça va pas pour moi, en fait. Parce que j'ai aucune ressource. Parce que je m'entraîne des mains à la porte, au foyer. Parce que pour le moment, j'habite au foyer colombien. Elles m'ont dit qu'il faut que je sorte le 11 mai, en fait. Tu vois? Mais j'ai aucune ressource à manger. J'ai débrouillé moi-même avec Nicolas qui m'a aidé un peu. Des fois, il m'aide pour des choses, de manger des trucs comme ça, tu vois.
Ça fait 8 ans hein, que tu es arrivé à Orléans, c'est ça?
Ça fait 8 ans, en fait. Je suis là, en fait. Ça fait 8 ans, en fait. Voilà? Parce que ça fait 8 ans. Tous mes amis, pourquoi moi en fait, parce que tous mes amis je connais, tous mes amis je connais, ils sont tous dépassés cette situation en fait, tu vois.
C'est-à-dire ils ont eu des papiers,
ils ont leur vie en fait, tu vois, ils ont leur vie normale en fait, tranquille, normale, ils travaillent, ils sont... C'est ça, tu vois. Je sais pas pourquoi. Toujours, quand je suis toute seule, je pose les questions à moi-même, en fait. Pourquoi moi? J'ai fait quoi, en fait? Parce que moi, depuis que je suis arrivé en France ici, j'ai pas fait les choses mal, en fait, tu vois. Je suis toujours dans mon coin, tu vois.
Comment tu imagines la suite? Après le 11 mai, là, ça t'angoisse?
Oui, ça m'angoisse tout, parce que même je ne pense pas les problèmes, les confinements, les trucs comme ça. J'ai toujours mon problème, il est dans ma tête, tu vois. Si le 11 mai, ils vont me mettre à la porte, tu vois. Ils vont me mettre à la porte, tu vois. Ils vont me mettre à la porte, tu vois. Je pense à tout ça, en fait, tu vois.
Et il faut dire, on va dire aux auditeurs, tu viens de Sierra Leone, hein, c'est ça?
Oui, je viens de Sierra Leone, en fait, Afrique de l'Ouest, en fait.
Oui, bien sûr, oui. Est-ce que tu as toujours quelqu'un là-bas? La famille est toujours là? Tu as des attaches là-bas ou pas?
Oui, j'ai ma mère, elle est là-bas, elle est déjà 60 ans, en fait. Elle est là-bas avec ma petite sœur, en fait. Elle a 10 ans, 11 ans comme ça, oui. Elle a 11 ans, oui. Maintenant, tu vois. C'est tout que j'ai, en fait.
Mais... Non, et qu'est-ce que... Rien,
Ouais, souvent quand à Radio Campus, on a des jeunes comme ça, des jeunes isolés étrangers, on leur pose la question, ceux qui sont en difficulté, qu'est-ce que tu pensais en partant de la Syrie? Est-ce que tu imaginais tous les problèmes que tu as là maintenant, en France? Comment tu voyais la France quand tu étais là-bas?
Oui, j'ai beaucoup de problèmes ici, mais c'est mieux que dans mon pays, en fait.
Que là-bas,
C'est
ouais.
oui, que là-bas, c'est pour ça que j'ai toujours, c'est ça qui m'encourage un peu, en fait. Tu vois? Mais parce que je suis là, je suis tranquille. C'est seulement les, tu vois, tu sais, quand tu peux pas imaginer, parce que je suis en France, il faut que je vive la vie de la Sierra Leone. Parce que je suis en France, il faut que je vive comme les autres, normal, tu vois. Il faut que je vive normal comme les autres. J'ai pas dit, OK, je suis, quand j'étais au Sierra Leone, c'était trop mal. Plus qu'ici, j'étais pas bien ici, plus qu'ici. Il faut que j'ai couragé trop, en fait, tu vois. Mais j'ai dit, mais les autres, ils sont des vies normales. Je suis là, je suis pas en Sierra Leone, je suis en France. Là.
Mais tes copains dont tu parlais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir les papiers et d'avoir une vie normale?
Les
C'est
autres,
qu'est-ce qui fait la différence, oui? Pourquoi tu sais pourquoi?
c'est la même demande qu'on a fait, même depuis on est arrivé ici, c'est la même demande. C'est seulement ils embêtent les autres, ils donnent les autres, c'est tout. C'est pas des choses. Les autres, ils ont la chance, ils l'ont eu, mais on a demandé la même chose. C'est pas les choses différentes, en fait. Là, même c'est juste l'histoire, c'est pas la même chose, en fait, là. Mais on a fait la même demande, tu vois.
Ah, je comprends. Et comment tu occupes tes journées? Comment ça dans la journée? Comment qu'est-ce que tu fais?
Avant le confinement, pendant le
Oui,
confinement, confinement.
les deux avant et maintenant.
Oui, avant le confinement, j'ai un petit travail à 8 h jusqu'à midi. C'est ça, j'ai fait pour
Oui.
distribuer les prospectus, en fait. Tu sais, les prospectus dans
Oui.
les boîtes aux lettres.
Oui.
Oui, je marche partout au Lyon, je mets les prospectus dans les boîtes aux lettres, en fait. Tu
Okay.
vois? Oui, j'ai mis ça, je viens, quand j'ai fini. Je viens au pizzeria avec le patron, il me donne un peu, peut-être des fois, il me donne 15 euros, il me donne 10 euros, il me donne 20 euros, tu vois.
Mais
C'est tout ça. J'utilise ça aussi pour survivre, tu vois.
bien sûr. Et là maintenant, il n'y a plus rien à faire.
Il n'a plus rien à faire. Je suis toujours confiné dans ma chambre, en fait.
Et d'un point de vue professionnel, par exemple, t'as un projet professionnel?
Hein?
Et comme métier,
Oui,
un...
oui, 2017, j'ai passé mon bac en mécanique, en fait, mais malheureusement, j'ai pas eu, en fait, tu vois, parce que
D'accord.
tu sais, je viens ici, je parlais pas français, je suis
Absolument.
dans l'anglais, mais je suis rentré dans les bacs, mais c'est trop dur, mais les par rapport aux papiers aussi, c'était trop dur. C'est des problèmes, la même
Oui.
chose, mais j'ai débrouillé jusqu'à la 2017, à la fin de mon étude. Malheureusement, j'ai pas eu le bac, tu vois. Ça
Oui.
posait beaucoup de problèmes, tu vois.
Bien sûr, oui.
Mais là aujourd'hui, hein, tu es soutenu. On a eu Nicolas au téléphone tout à l'heure, Nicolas Deray. Il y a aussi les associations, le COJI et RSF qui te soutiennent. Comment tu sens ça?
Oui, ça c'est très 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 bien pour moi, en fait. Je sais pas comment ça c'est très bien, ça c'est très très bien pour moi, tu vois. Parce que c'est des fois dans la vie, même si tu es trop stressé, mais même si tu es trop trop stressé, si il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il t'aide, tu vas un peu courage, tu vois. Tu vas
Bien sûr.
un peu de courage, tu vois. Dis, OK, moi, il faut pas que je stresse tout, il y a des autres qui m'aident, tu vois, pour avancer les choses, tu vois. C'est ça.
Eh ouais,
C'est eux qui m'aident, Nicolas, avec les associations Astin, tu vois.
oui.
Si c'est pas eux, je sais pas comment je le fais, en fait.
Bah, Tierno, merci d'avoir parlé avec nous. On te souhaite beaucoup de courage.
D'accord.
Bon. Et puis on sera toujours avec Nicolas, avec RESF et le COJI pour prendre de tes nouvelles.
D'accord.
Bondi Bloc Café.
www.bondibloccentre.fr.